Le voyage dans le temps, c'est un concept qui fascine depuis toujours.
Ouais, ça complètement.
Souvent, on se l'imagine avec des machines super complexes sorties de romans de science-fiction. Pourtant, il existe des capsules temporelles bien réelles, tangibles, et qui demandent qu'à être observées.
Ouais, et parfois elles tiennent littéralement dans la main.
C'est ça. Notre plongée d'aujourd'hui repose sur l'une de ces capsules, modeste, mais incroyablement riche en fait. Une collection de cartes postales anciennes.
Tout à fait.
Le document source au centre de cette exploration, c'est un article de fond fascinant qui est consacré aux 150 ans de l'ensemble scolaire Saint-Geneviève-Saint-Joseph.
Une institution majeure située à Rodez, dans le sud de la France.
Voilà. Et la richesse de ce document doit énormément à deux personnes. D'un côté, on a le travail de recherche vraiment titanesque de l'auteur, Pierre Dumont. Il a fouillé les archives pour reconstituer toute cette fresque.
Et de l'autre côté, il y a la vision de Guy Mazard. C'est le rédacteur en chef et le concepteur de la maquette de cette publication.
C'est vraiment son travail d'agencement des fameuses cartes postales qui permet au texte de prendre vie, quoi. En regardant ces images, les visages figés, les murs immenses, les uniformes.
Un paradoxe saisissant émerge.
Exactement. Toute notre discussion va s'articuler autour de cette tension, le contraste entre d'un côté un contrôle disciplinaire presque médiéval et de l'autre une ambition scientifique résolument tournée vers la modernité.
C'est un prisme d'analyse très fécond pour ceux qui nous écoutent. L'institution scolaire du 19e siècle, c'est souvent un microcosme de la société elle-même.
Ouais.
En décortiquant la manière dont cette école gérait le temps, l'espace, la nourriture, les savoirs, on va en réalité décoder les angoisses et les aspirations de toute une époque en pleine mutation.
Et pour bien saisir l'ampleur de cette mutation, il faut poser le décor. Pierre Dumont fixe un repère chronologique assez vertigineux dès le début.
L'ouverture officielle.
Voilà, l'ouverture du pensionnat sous ce nom le 23 mars 1859. Et c'est une date qu'il faut contextualiser. En 1859, la France est sous le Second Empire, avec Napoléon III.
La photographie en est à ses balbutiements ailleurs.
C'est ça, et c'est ce qui permet justement l'existence des cartes postales qu'on étudie. Pour donner une idée, à l'échelle mondiale, c'est l'année où la cloche de Big Ben résonne pour la première fois à Londres.
Ça donne une idée de l'époque, ouais.
On vit sans électricité domestique, sans téléphone, et la tour Eiffel, elle n'existe même pas en croquis sur un bureau.
Ce contexte de révolution industrielle naissante est fondamental. Mais si 1859 marque un tournant officiel, l'analyse de Pierre Dumont nous ramène en fait bien plus loin en arrière.
Ah oui, les racines sont profondes.
Très profondes. L'histoire de cet enseignement à Rodez débute plus d'un siècle plus tôt, en 1745. Les premiers frères s'installent pour prendre en charge une école gratuite pour les enfants des classes populaires.
Dans une France d'Ancien Régime, très rurale, c'est énorme.
C'est un acte d'ingénierie sociale majeur. Les chiffres de l'article montrent qu'ils assuraient la formation de base de 80% des élèves de la ville.
Un monopole de fait. Mais l'élan est brisé net en 1792.
Et cette rupture nécessite une petite explication historique. Le pays est en pleine révolution. Les autorités instaurent la constitution civile du clergé.
En gros, l'État exige un serment d'allégeance.
C'est ça, au-dessus de l'autorité du pape. Les frères de Rodez refusent. Et ce refus fait d'eux dehors la loi. Ils partent en exil ou dans la clandestinité. L'école ferme.
Il faudra attendre longtemps. Ils reviennent en 1819 et c'est seulement en 1859 qu'ils ont l'autorisation d'ouvrir ce grand pensionnat.
Et les cartes postales mises en page par Guy Mazars montrent bien cette reconquête. On voit plus des petites salles précaires.
Non, c'est des bâtiments massifs, des façades immenses. L'architecture crie le triomphe institutionnel.
Mais ces bâtiments ne servaient pas juste à abriter les élèves, hein. Ils étaient conçus pour les encadrer strictement. Ce qui nous amène au quotidien.
Le règlement intérieur retranscrit dans l'article est juste fou. C'est une organisation militaire. Par exemple, la liste du trousseau que chaque élève devait apporter.
Ah, le fameux trousseau.
Le lit est fourni, mais l'élève doit amener ses affaires. Et on y trouve l'obligation d'avoir 4 bonnets de nuit.
Le dortoir devait être glacial en hiver.
Tu m'étonnes. Mais le détail qui m'a fait halluciner, c'est qu'il devait fournir un couteau de table avec la mention express.
Sans pointe.
Voilà, un couteau sans pointe.
Ça dépasse l'anecdote matérielle, ça. Ça illustre la gestion des risques dans un internat avec de centaines de garçons.
Bah oui, les bagarres.
Exactement. Imposer un couteau à bourron, c'est s'assurer qu'un conflit au réfectoire ne se transforme pas en agression mortelle par coup d'estoc. C'est très pragmatique.
Et la prévention des mauvaises habitudes, elle est loin. Interdiction de cracher par terre, interdiction de fumer.
Classique pour l'époque.
Mais l'interdiction la plus surprenante, c'est celle d'utiliser ou même de posséder une montre.
C'est sans doute l'élément le plus révélateur de leur idéologie disciplinaire.
Confisquer Loire.
Oui. Un élève avec une montre garde une forme d'autonomie. Il peut anticiper la fin du cours. En supprimant cet objet, l'institution devient l'unique maîtresse du temps.
La cloche dicte tout.
Le lever, le travail, le silence, la prière. Le temps appartient à la structure, ce qui prépare ces jeunes à la discipline des usines ou de l'armée plus tard.
Même les moments de détente étaient ultra-canalisés. Sur les cartes postales de la cour des petits, on voit des enfants en uniforme bleu foncé avec un képi.
Oui, Pierre Dumont précise que certains jeux étaient proscrits.
Les jeux de quilles ou avec des bâtons étaient bannis suite à des incidents. Donc il restait que la toupie ou les billes sur les pavés.
Et cette pacification, on la retrouve encore plus rigide au réfectoire.
Oh là là, le réfectoire, le silence absolu.
Les élèves entraient sans un mot. Le repas était rythmé par la lecture à voix haute d'un texte religieux.
Et les prières debout avant et après le repas.
L'encadrement spirituel encerclait la nutrition.
En parlant de nutrition, le contraste est énorme avec ce qu'il y avait dans les verres. Le menu incluait une distribution quotidienne de vin aux enfants.
Oui.
De santé actuelle.
C'est clair. Mais ça illustre la santé publique du 19e siècle. À l'époque, l'eau courante n'offrait aucune garantie de potabilité.
C'était dangereux de boire de l'eau pure.
Très dangereux. Le choléra, la typhoïde. Le vin, avec son alcool, était perçu comme une boisson hygiénique. Et la médecine considérait le vin comme un aliment fortifiant.
Pour donner de la vigueur au sang des enfants ?
Exactement. C'était une prescription protectrice, pas une incitation à l'ébriété.
Cette volonté de forger des corps vigoureux, nourris au vin coupé d'eau, ça servait à un objectif supérieur. Et là, on arrive au deuxième gros morceau de notre analyse.
Le programme académique.
L'article présente un bulletin de notes d'octobre 1879. Le niveau d'exigence est juste stupéfiant.
Ce bulletin de 1879 est la pièce maîtresse. Ça commence par l'évaluation du caractère, des notes pour la politesse, la propreté, la conduite et la pratique de la religion.
Le socle moral.
Voilà.
Mais dès qu'on passe aux matières académiques, le niveau s'envole. On trouve de la géométrie descriptive, de la cosmographie, de la minéralogie.
Et des matières très pratiques pour l'économie.
L'arpentage, le nivellement, la tenue des livres de compte. Sans oublier l'exercice militaire. On est très loin du simple apprentissage du latin.
C'est une vision extrêmement avant-gardiste. Enseigner l'arpentage en 1879, c'est pas anodin. Savoir mesurer la superficie des terres, c'était une compétence inestimable pour les futurs géomètres ou notaires.
La France était très rurale. La propriété terrienne, c'était le pouvoir.
Tout à fait. Et la tenue des comptes, ça formait directement les cadres du commerce et de l'industrie.
La cosmographie aussi, c'est fascinant. Apprendre à cartographier l'univers. Il voulait vraiment former une élite complète. Des ingénieurs, des gestionnaires.
Et des cadres pour la défense de la nation, avec les exercices militaires. Il faut se rappeler qu'on est peu après la défaite de 1870 face à la Prusse.
Bien sûr. Et pour abriter une telle ambition, l'architecture devait en imposer. Les cartes postales montrent des vues spectaculaires.
Surtout la chapelle.
Ah, la chapelle consacrée en 1875. Elle est surmontée d'une tour crénelée de 27 mètres de haut. Visuellement, on dirait le donjon d'un château fort médiéval.
C'est un vocabulaire architectural défensif très symbolique. L'institution se présente comme une forteresse inexpugnable.
Qui protège la foi des élèves.
Et aussi une forteresse bisamoire. Cette monumentalité marquait le prestige de l'école, bien au-delà de l'Aveyron.
Le rayonnement dépassait largement la région. Les archives de l'article de Pierre Dumont parlent d'un espace sous cette chapelle, la salle des fêtes.
Une salle qui a vu passer du beau monde.
C'est le moins qu'on puisse dire. En 1893, ils reçoivent Monseigneur Ratti, qui deviendra le pape Pie XI. Et en 1951, Monseigneur Roncalli vient y présider une remise de prix avant de devenir Jean XXIII.
Recevoir deux futurs papes, ça démontre que Saint-Joseph était un nœud stratégique majeur de l'éducation catholique en Europe.
Cette excellence s'incarnait aussi dans un endroit incroyable de l'école, très documenté par les cartes postales, le musée scolaire.
Un véritable cabinet de curiosité.
Oui, pendant que le salon classique montrait les dessins des élèves aux parents, le musée proposait un tour du monde. Des fossiles, des minéraux rares, des animaux d'Afrique empaillés.
Et un gardien un peu spécial.
À César. Un authentique chien berger des Pyrénées empaillé. L'article mentionne d'ailleurs que César est toujours visible aujourd'hui.
La présence de ce musée d'histoire naturelle au cœur d'une école religieuse du 19e, c'est capital. À une époque où les théories de l'évolution bousculent les dogmes, il ne rejette pas la science empirique.
Il l'intègre même complètement.
Les élèves observaient la réalité tangible du monde. Ça prouvait que l'apprentissage catholique pouvait s'allier à l'avant-garde scientifique.
Ce croisement entre la science poussée et la spiritualité trouve son point d'orgue dans une histoire vraiment intense relatée dans les archives. Ça se passe à l'infirmerie.
Un lieu immortalisé par une carte postale à l'atmosphère très austère d'ailleurs.
C'est l'histoire de Léopold de Taillac, un élève de 3e, de 15 ans. Il est frappé par une maladie foudroyante.
Une méningite infectieuse grave.
Et à cette époque, sans antibiotiques, c'est une sentence de mort. Trois des médecins les plus réputés de Rhodée confirment que c'est fini. L'état se dégrade, le délire s'installe. On attend son décès.
Et là, le cours des choses bascule.
De façon inexplicable. La fièvre tombe subitement, le garçon reconnaît sa mère, demande à manger et s'endort paisiblement. Les médecins reviennent et se déclarent incapables de justifier cette rémission par la science.
Face à cette incapacité médicale, le dossier change de dimension. Une guérison médicalement inexplicable dans une école religieuse, ça déclenche un processus très strict.
Le tribunal ecclésiastique.
Exactement. Les médecins font des dépositions sous serment. Le dossier est transmis à Rome, qui authentifie formellement l'événement comme un miracle.
Les répercussions ont été énormes. Ce miracle précis a été retenu comme l'une des preuves officielles pour la canonisation du fondateur de l'ordre.
Saint Jean-Baptiste de la Salle.
Oui. Une immense statue du saint a été inaugurée dans le parc en 1889 pour marquer ça.
Et le parcours de Léopold Taillac ensuite est fascinant. Il n'a pas tourné le dos à l'école, bien au contraire.
Il a carrément rejoint l'Institut des Frères.
Il est devenu enseignant. L'archive révèle qu'il a pris en charge la classe de 8e dans cette même école jusqu'à sa mort à 56 ans. L'école lui a donné la vie, une instruction, puis une vocation.
Ça résume parfaitement la densité de ce récit. Le travail d'archivage de Pierre Dumont, magnifié visuellement par Guy Mazard, nous offre vraiment le panorama d'un écosystème total.
On a tout vu. Le contrôle des corps, les règles du réfectoire, le musée scientifique, l'architecture imposante.
Et des événements qui flirtent avec le divin. Tout ça figé sur de simples morceaux de carton. D'ailleurs, le corpus de cartes postales édité par Georges Dombre est si vaste que l'exploration ne s'arrête pas là.
Ah oui, l'article a une suite ?
Le texte indique très clairement que la seconde partie de ce travail documentaire est publiée dans le bulletin numéro 44. L'invitation est lancée pour ceux qui voudraient creuser.
C'est une excellente transition pour une réflexion plus large. La matérialité de ces sources nous questionne sur notre propre époque.
C'est-à-dire ?
Aujourd'hui, on arrive à reconstituer l'âme d'une institution, ses peurs, ses espoirs, juste grâce à un bulletin de notes de 1879 ou le grain d'une carte postale avec des enfants qui jouent aux billes.
C'est vrai que le support physique traverse le temps.
Or, dans notre ère éducative numérisée, les correspondances s'effacent sur des serveurs. Les bulletins sont sur des interfaces web.
Tout est dématérialisé.
Du coup, on peut se demander quelles traces tangibles résisteront. Quels artefacts précis de nos écoles actuelles permettront aux chercheurs dans 150 ans de décoder nos propres angoisses pédagogiques avec autant d'émotion qu'une simple carte postale écornée ?
C'est une question vertigineuse pour clore cette analyse. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration temporelle et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.